vaut mieux maintenant que... Bonjour à tous, bienvenue pour cette sieste acoustique. Le principe, on sera simple, on est simple, c'est la sieste débutera par un son de cloche et se terminera par un autre son de cloche. Et nous vous invitons à faire de ce moment ce que bon vous semble, et ça peut être par exemple de dormir profondément. Nous tâcherons nous de faire le moins de bruit possible. Une seule règle, si vous le voulez bien, qui sera de ne pas applaudir entre les textes et les chansons afin de ne pas réveiller votre voisin, votre voisine qui dorment déjà profondément.
Vous savez comment éteindre un
insupportable. Et puis un bruit toléré, voire même encouragé, plutôt que le téléphone portable. Le ronflement. Montrez-nous de quoi vous êtes capable en cette belle journée de des correspondances. On attend que ça soit réglé à ma...
Comment t'es en avion? Je connais pas
ce que... Je suis sourde, alors ça me va directement dans les oreilles.
Ah, là, mode avion.
Ah bon, on y va alors.
J'ai trouvé. C'était pas comme ça, c'était comme ça. Avec plaisir.
Eh bien, bon dodo à tous.
Merci. Milva marchait dans la forêt. Son attirail, moins lourd qu'encombrant, cliquetait au bout de ses bras. Elle sentait le relief du sol sous la semelle de ses bottes. Les épicéas absorbaient la lumière et les sons. Pour rejoindre l'étang, elle obliqua vers la droite. De jeunes ronces rendaient le passage moins praticable. Elle entendit un bruit suivi d'un frémissement d'herbe. Elle s'arrêta, aux aguets. Son sang battait dans ses oreilles. À quelques centimètres de ses pieds, elle vit trotter une musaraigne qui aussitôt disparut dans un trou. Les fougères étaient encore humides de rosée. Milva reprit sa progression. Elle calculait la longueur de ses enjambées pour éviter les orties et les branches cassées. Ses bottes brillaient. Mélange de fraîcheur et de moiteur. Plus exactement, une moiteur dans laquelle, par instant, par bouffée, une fraîcheur montait. Le ciel gris-blanc intensifiait la lumière. Une percée soudain. C'était l'étang. Milva choisit un coin qu'elle aimait, un peu à l'écart, et se délesta de son barda. Des libellules posaient leur corps irisé et sans poids sur les cannes. L'herbe avait déjà été foulée, deux bouts de bois en forme de Y étaient fichés dans le sol. Un autre pêcheur avait précédé Milva. Elle contempla l'eau calme qui reflétait la forêt et la roselière. Dans une zone sans ajoncs s'élevait une sorte de brume, une fumerole, qui semblait relier le paysage à un autre monde. Milva jeta des poignées d'amorces qu'elle avait préparées la veille, consistant en biscottes, biscuits, vieilles pommes de terre, parfumées d'une larme d'absinthe et malaxées en rêvant grosses captures. C'était comme un rituel, une offrande pour quelque divinité lacustre. Elle rinça soigneusement ses mains coulantes en utilisant l'eau de sa gourde, se gardant bien de les tremper dans l'étang pour ne pas effrayer les poissons. Ensuite, elle tendit ses lignes. Plus un souffle de vent. De grands insectes patinaient sur l'eau tranquille, l'odeur de roseaux et d'iris fanés. L'étang pouvait dégager certains jours quelque chose de lourd et douloureux, presque malsain, qui contrastait avec la légèreté et la fraîcheur de l'air. Milva guettait le moindre frémissement des bouchons fleurissants. Elle admira le vol lent d'un héron, le passage d'un ragondin serrant entre ses dents une branche de saule et qui, arrivée à sa hauteur, tourna la tête pour la regarder. Soudain, tic-tic-tic-tic-tic, son moulinet se dévidant à toute vitesse, Milva se précipita sur sa canne à lancer. Elle l'agrippa, elle sentit tout de suite qu'une chose inhabituelle se passait. Elle dut laisser du mou. Il Il fallait à tout prix éviter que le fil ou l'extrémité incroyablement courbée de la canne ne se casse. Elle chercha un peu de souplesse dans son poignet pour accompagner la prise, tout en veillant à ne pas glisser elle-même dans l'eau pour être ensuite entraînée au milieu des roseaux que lui désignait le fil de pêche. Balader le poisson, le fatiguer, sans lui déchirer non plus la bouche avec l'hameçon, le sortir avec douceur de l'étang, c'était tout un art que Théo avait transmis à Milva.
Regarde, le jour s'en va. La nuit s'étend, te tend les bras. T'as tant de songes et rêves sous les draps. Regarde, le ciel flamboie. Déjà le chat voit, lui s'en va. Chasseur de nuit, vêtu de gris, guette sa proie. Là-haut, un astre lui. Écoute les bruissements de la nuit. Et bête tapis dans nos bois.
Sous-titrage Société Radio-Canada. offrir à l'empereur de ce mystère à ses sbires, à son valet. Où pense-t-elle à cette fleur d'un jour? Alléluia, louons l'été de cet après-midi de janvier qui nous mouille tout entier. Louons-le toute une d'argent reflet dans ta crinière, dans le bas de mon dos des douleurs. Mais après-demain je les ressortirai de ma collection de douceur ces quelques jours. Aussi je reste demandeur encore une petite faveur, qu'on fasse dire au fossoyeur que je m'en irai voir ailleurs. Sans erreur, un jour sans erreur.
À la fin des jours, songez que les cendres nous recouvrent. Que ne restons-nous pas à l'abri cette chambre où le temps la terre s'entr'ouvre ce matin.
Milva s'était endormie d'humeur renfrognée. Et puis, comme souvent, elle s'était réveillée calme, étrangement réconciliée avec le monde. À 5h du matin, elle avait même fait l'effort de ranger la remise et avait laissé un mot gentil à son père sur la table de la cuisine. Rejoindre les Alpes de Haute-Provence depuis les Franches Montagnes était une expédition. Mais grâce qu'à un casque audio qui lui avait coûté 6 mois de babysitting, Milva n'envisageait plus ce long trajet de la même manière. Elle composait une playlist en pensant aux ambiances que lui inspiraient, au gré des saisons et de sa propre humeur, les paysages qu'elle s'apprêtait à traverser. Un montage qui, un peu comme la bande-son d'une série, éloignait toute chose dans une abstraction parallèle. Une gare, un déplacement vers la voiture-bar, un contrôleur, sa propre présence, tout devenait image, élément scénarisé. Une fois qu'elle avait fait biper son passe Zoo du nom de la compagnie d'autocars qui assurait la liaison entre Aix-en-Provence TGV et Man, après avoir vu les premiers pins inclinés et aux abords de Venelle, dressés devant des hangars les grandes coques des piscines en polyester, Milva retrouvait des lieux familiers. Elle aimait ce paysage beau et laid, surpeuplé ou presque désert, suivant les saisons. Doux et violent, jamais tout à fait tranquille, où toujours quelque chose pouvait mal tourner à cause de la fureur du mistral, d'un orage ou d'un feu. Dans le car, Milva s'installait côté fenêtre. Elle regardait la Durance, les sablières, les forêts de petits chênes, les grues du centre atomique de Cadarache qui se découpaient dans le ciel. Ce pays était aussi le sien. En tout cas, en quelques minutes, la force étrange qui s'en dégageait extirpait Milva de la somnolence dans laquelle elle se trouvait. Thank you.
aigris, à l'ébouliche lit. Homme, j'aurais dû m'éloigner tout de go avant qu'on m'épolie. Même chemise, même église, même lune de miel. Même brebis, et que ne suis-je? Un troupeau. On est libre, on n'a plus de sucre. On est libre, on n'a plus de sac. Est-ce l'orgueil? Je n'ai pas vu venir que tu t'en vas sans moi. Oh, j'aurais dû m'éloigner tout de go, témoigner contre moi. Même si, même silence de plomb. Même délit, elle en rit à nouveau. On est libre, on n'a plus de sucre. On est libre, on n'a plus de sacré.
J'avance comme une montre, me mélangeant tous autres ombres. Tu n'y vois que du feu, je m'approche, pourtant si près de toi, à te toucher du doigt. Mais la foule suivre, tu me remarqueras, j'émergerai des eaux profondes et tu viendras te blottir dans mes bras et j'entendrai enfin le doux son de ta voix quand la foule
haricots verts dans l'eau de son évier. Elle revoyait une photographie en noir et blanc reproduite dans le calendrier des postes punaisé autrefois sur le mur de la cuisine. Les radeliers transportant le bois flotté sur la Durance de la forêt de Boscordon jusqu'à Avignon. Elle plongea son autre main dans l'eau pour profiter un instant de la fraîcheur. Depuis qu'elle était revenue à Mannes, tant d'images ressurgissaient. Elle éplucha une tête d'ail. À la radio, une humoriste imitait un homme politique, contrefaisant parfaitement sa voix en modifiant la sienne d'un quart de ton. Irène imaginait Théo et Kyoko sur leur moto scintillante. L'accident qu'ils avaient eu 5 ans plus tôt n'avait pas découragé Théo. Irène équeuta les haricots sur un vieux journal. Elle hacha du persil et se servit un verre d'eau. Des perles de condensation s'étaient formées sur la carafe. La marque de ses doigts brouilla un instant le dessin des gouttelettes. Irène alla chercher un melon dans la pièce attenante à la cuisine, un local aéré, encombré de cajots et de bocaux, qui lui servait, été comme hiver, de garde-manger. Elle le soupesa, le huma, il avait le parfum sucré de melon fait. Elle le découpa en enfonçant la lame d'un grand couteau dans chaque trait vert bleuté divisant sa peau brodée. L'arrivée de ses enfants la mettait toujours dans un état particulier, fait de joie et d'anxiété, qui pouvait la rendre maladroite. Son téléphone vibra. C'était la confirmation d'une course pour le lendemain. Irène choisit dans l'armoire une nappe et un jeu de serviettes dressa la table dans le jardin. Elle tailla au sécateur du sureau noir et de la garance. Elle composa un bouquet en glissant à la fin des bleuets. Comme le sol du jardin était légèrement pentu, il fallait toujours placer des cales sous les pieds de la table. Le soleil était déjà haut. Pour rejoindre la cuisine, Irène marchait dans la ligne d'ombre dessinée par le muret. Elle entendait d'un côté le son de la radio, de l'autre, derrière un buisson de grenadier, la voix de la petite voisine âgée de 2 ans. Sur le journal, les queues des haricots formaient une collection de virgules. Irène repensa à la dernière fois qu'elle avait vu Théo. En tranchant du pain, son couteau ripa et lui glissa l'index. Elle le porta à la bouche, le suça. Elle l'enveloppa dans un bout de sopalin qu'elle comprima avec l'autre main et prit quelques minutes pour s'asseoir sur l'une des chaises en fer disposées autour de la table. Maintenant, la radio diffusait une chanson qu'elle aimait. L'histoire d'un homme qui avait la poisse et ne savait plus comment parler aux autres. Irène défit son pansement de fortune et inspecta son doigt. L'entaille ne saignait plus.
Je suis là. Et toi,
sortirai pas bientôt. Non, et l'ombre me fait un manteau. Long, l'été s'écoule doucement. Rond, le temps s'affaire mollement. Non, je ne verrai pas la jeune pousse. Non, pas plus que la mer qui le pousse. Non, leurs printemps rouleront sur moi. Rond, si longtemps que l'on oubliera. Rond, le soleil qui s'abat sur elle. Long, le chemin bien trop long pour elle. Non, il ne me poussera pas des ailes. Non, pour aller voir en ses dentelles. Cet été n'est pas le dernier, non, que je passe au loin des pommiers. Oui, la primavère aura passé, non, elle ne me reviendra jamais. Mais si je reste un peu au frais ici, si je dors dans mon réduit de nuit, si je rêve d'aller que je m'enfuis, oui, je la retrouve en paradis. Oui, je la retrouve, elle me sourit. Oui, je la retrouve.
Milva essaya de convaincre Sam d'aller voir avec elle un film de Mikio Naruse à l'ABC. Encore un vieux film japonais, j'ai peur de m'ennuyer. Le premier que j'ai vu t'aurait beaucoup plu. Tu vas dessiner? Je ne sais pas. Tu dis toujours ça. Un paquet de neige glissa du toit et s'écrasa sur le trottoir dans un bruit mou. Ils sursautèrent. « Tu vois, c'est dangereux ici, je m'en vais, » dit Sam. « Tu me montreras tes dessins demain. » Milva salua le projectionniste qui tenait aussi la caisse. Il s'installa au dernier rang, au centre. C'était son endroit favori. Un peu en surplomb, avec au-dessus d'elle le faisceau du projecteur, dont elle aimait sentir la chaleur et le léger trembler. Et surtout dont la lumière, à certains moments, lui permettait de voir ce qu'elle dessinait. Il y avait une quinzaine de spectateurs. C'était beaucoup pour un dimanche après-midi à l'ABC. Milva était la plus jeune. Elle avait été éblouie par le film qu'elle avait vu le samedi précédent, Au gré du courant. Le récit du déclin d'une maison de geisha. La beauté d'Oharu, l'héroïne, l'avait subjuguée. Le faux calme des scènes domestiques aussi. En découvrant une femme dans la tourmente, la magie opéra à nouveau. Milva, qui attendait toujours avant de sortir son carnet, l'ouvrit dès les premiers plans. Elle dessina les demi-rideaux de portes suspendues, les motifs des papiers peints, la jeune veuve vertueuse s'appliquant à construire une pyramide de boîtes de conserve dans l'épicerie de ses beaux-parents. Milva tournait le plus discrètement possible les pages de son carnet qu'elle tenait appuyées contre sa cuisse. Elle enregistrait par le dessin des instantanés ou de longs plans, tout ce qui l'intriguait, lui plaisait. Elle tirait et lançait son trait dans l'espace comme un lasso. Aucune ligne droite, des lignes à l'équilibre légèrement instable se croisaient et se recouvraient partiellement, ou débordaient de la page. Parfois la pointe de son crayon ripait et restait une seconde prise dans le trou des spirales du carnet. Paradoxalement, dessiner dans la pénombre offrait à Milva la condition idéale pour que, tout en étant à l'écoute du film, une liberté s'exprime, pour que la main parle d'elle-même. Ce jour-là, quand la lumière se ralluma dans la salle, un garçon se leva. C'était Tintin. Après une semaine de travail, il lui arrivait de se délaisser au cinéma, Ils discutèrent du film dans le hall de l'ABC, un sas avec une table où s'empilaient des flyers. Ils se regardèrent longuement dans les yeux.
Maman, que de temps.
le temps me grise. Que le temps me brise. Thank you. la 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 la. Ai-je vent de comment j'arrivais jusque là, oh ralenti, oh rarement, par danger ou par choix. Le temps me laisse passer, je lui dis après toi. Et l'enfant qui m'a fait ne me reconnaît pas. Ai-je dormi longtemps, souvent, au large de ma voix. Le temps me laisse passer, je lui dis après toi. Mais laisse-moi si tu veux bien, de quoi donner ce que j'ai sur moi. Ai-je soufflé déjà tant de vent brûlé, tant de bois, que les jambes et les bras pour gravir encore une isité, de te fuir, il m'en reste à peine, mais il m'en reste assez. Et peu importe qu'il me mène en bateau, s'il file vite et droit, je me ferai mousse, je le ferai capitaine. Et l'écume m'écumera, le temps me laisse passer, je lui dis après toi. Moi, je ne fais que passer, toi, tu vas plus loin que moi. Le temps me laisse passer, je lui dis après toi. Je lui dis après toi.
Sonia Houda. Maëva Lebert. J.P. Nataf.
Et Bastien Lallemand.
Bon festival, j'ai envie de dire. Bonne correspondance. À bientôt.